C'est ça le légalisme. Vous comprenez? Et donc, est-ce que le légalisme, ça signifie, je ne cherche pas, pardon, est-ce que le légalisme, c'est, je veux scrupuleusement obéir à Dieu? Est-ce que, si je veux scrupuleusement obéir à Dieu, est-ce que je suis légaliste? Non. Non, je suis normal. Comprenez? Je suis légaliste si je fais dépendre ma paix et mon rapport à Dieu de ma réussite à obéir ou pas. Alors, il reste que obéir, quand j'obéis à Dieu, je me porte bien. Et que ça rajoute quelque chose à mon rapport à Dieu. Il y a quelque chose de bon et Dieu se réjouit de ça et moi aussi. Mais pour autant, ma paix ne dépend pas d'abord de mon obéissance, mais du sang de Christ. Okay. Donc ça, c'est pour bien comprendre qu'est-ce que c'est vivre sous la grâce. En aucun cas, vivre sous la grâce, c'est, allez, on ne pense plus à obéir. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas la grâce. Hein? Voilà. Donc, l'Esprit nous entraîne à nous sanctifier nous-mêmes. Par où je vais commencer? Donc, c'est clairement un effort de sainteté et un fruit. Par exemple, dans Romains 6, Paul explique, il dit, quand vous étiez esclaves du péché, vous portiez des fruits dont maintenant vous rougissez plutôt. Et il dit, mais maintenant, étant esclaves de Dieu, vous lui avez livré vos membres, c'est-à-dire toutes vos facultés. Et il dit, maintenant, vous avez pour fruit la sainteté. Et pour fin, la vie éternelle. 6, verset 20-22, à peu près. Romains 6, 20-22, vous avez pour fruit la sainteté. Et donc, mais précédemment, il évoque une volonté, un choix, une décision, et quelquefois, et d'autres fois aussi, un effort. Il dit, vous ne livrez plus vos membres, mais vous vous livrez à Dieu. Il dit, vous avez pour fruit. Et donc, il y a une sanctification qui est le fruit de ce que moi je vais penser ou pas, faire ou pas. Alors, la première, et je vous propose cinq petits points. La première chose, c'est la lucidité. Enfin, c'est des mots que moi j'ai mis, vous pouvez changer, vous pouvez mettre les mots que vous voulez à partir des versets qu'on va lire. Mais alors, donc, le verset, c'est Hébreux 12, verset 1. Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Voilà. Ça, c'est le premier. Si vous voulez, me sanctifier en tant que chrétien, le premier pas, c'est. Premier pas au sens fonctionnement, si vous voulez, c'est être conscient que le péché m'enveloppe facilement. Voilà. Si je me séduis moi-même en disant, puisque je suis sanctifié par le sang du Seigneur et puisque je suis chrétien, eh bien, je suis intouchable. Le tentateur, il ne me touche plus, il ne m'atteint plus et le péché ne me touche plus. Bon, forcément, là, je ne me sanctifie pas du tout et je vais finir bas. Hein. Je vais déraper sévère. Hein? Tant qu'on est sur terre. Mais il y a cette lucidité, c'est-à-dire, alors vous allez dire, mais c'est une évidence. Alors oui, mais sincèrement, souligner cette évidence, ça rend service. Alors, d'abord, c'est écrit. Pourquoi, si vous voulez? Pourquoi c'est écrit? Le péché nous enveloppe facilement. Voilà une affirmation pas positive. Vous voyez? Un bon coach, il ne dirait pas ça. Vous voyez? Bon, mais c'est la vérité. Donc, mais parce que pour convaincre les frères et sœurs à quel point ils ont été sanctifiés par le sang et à quel point ils sont déliés de leurs péchés, c'est-à-dire que les péchés qu'ils ont déjà commis ne les asservissent plus, ne les enferment plus, pour le convaincre, des fois on va tellement loin qu'on lui laisse presque entendre que le péché ne le touche plus. Alors les péchés commis, eux, ils n'existent plus. Ils sont derrière le dos de Dieu, au fond de la mer, etc. Mais tout ça, c'est figuré. Mais le principe du péché qui est dans le monde, le péché est entré dans le monde par un homme. Voilà. Le principe du péché, ben oui, il me touche. Il me touche dans le sens bon, que ça me fait quelque chose, mais aussi il m'atteint. Voilà, je voulais dire, il me touche, il m'atteint. Et donc, oui, il faut croire très fort que je suis déjà sanctifié et que je suis délié de mes péchés, mais sans pousser trop loin, et autrement dit, sans me départir d'une certaine lucidité de dire, oui, le péché nous enveloppe facilement. Facilement, on devient injuste. Et ouais, et pour ma part, de moi. Ben c'est ça, hein. J'espère que personne ne s'imagine que s'il avait été à la place d'Adam, il aurait fait mieux. Enfin bon, vous débrouillez avec Adam, le Seigneur Adam et vous. D'accord? Et c'est pour ça que quand, dans le même chapitre d'Hébreux 12, le premier verset dit que le péché nous enveloppe, mais ensuite au verset 10, il dit que quand Dieu nous corrige, c'est dans notre intérêt véritable. C'est-à-dire que comme on est vite enveloppé, ben lui c'est pour nous désengluer. Et il dit pour nous faire participer à sa sainteté. Voilà. Donc voilà, moi j'ai appelé ça lucidité, vous mettez le mot qui vous arrange. Hein. Ensuite, on l'a déjà dit, mais en parlant de sainteté ce matin beaucoup, mais lumière. Lumière. Aussi pour le pardon des péchés d'ailleurs, si nous marchons dans la lumière, ce qui ne veut pas dire si nous ne péchons pas, mais ce qui veut dire si nous ne cachons pas. Si nous confessons nos péchés. Et donc là, évidemment, hein, Proverbe 28, versets 13 et 14. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà, bon, ceux qui écouteront l'enregistrement, vous aurez compris pourquoi je n'ai pas fait une carrière de chanteur. Voilà. Ne pas cacher. C'est super beau. Hein? Celui qui les avoue ou les confesse, puis ensuite les délaisse, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu veux délaisser? Alors souvent on dit, je vais délaisser, pas besoin d'avouer. Il ne faudrait pas trop que ça se sache. Je vais délaisser. Et ouais, mais tant que je confesse pas à Dieu, la force pour délaisser, elle est quasiment pas là. Parce que c'est une question de vérité. Alors je m'explique. Qui c'est qui a péché? Je suis chrétien, hein, je pêche. Qui c'est qui a péché? Un saint. Et si un saint pêche, et s'il dit rien, il parle pas en saint. Il faut qu'il parle en saint. Et quand un saint fait quelque chose que Dieu n'aime pas, il faut qu'il dise, Dieu n'aime pas, j'ai fait quelque chose que tu n'aimes pas, Seigneur. Et donc moi-même, je ne l'aime plus, je n'aime pas ce que j'ai fait. Vous comprenez, la confession est très importante. Alors, peut-être il y aura des questions ultérieures. S'il y a des questions, elles pourront venir sur à qui on confesse. Hein? Voilà. Bon, à Dieu d'abord, hein, évidemment. Donc, et c'est pour ça qu'il y a cette expression que Paul emploie dans Éphésiens 5 quand il dit qu'il n'y a pas d'impureté, pas de ceci, pas de cela. Et il dit, il rajoute, et j'aime beaucoup ça, comme il convient à des saints. Alors, vous comprenez que si on entend saint seulement au sens de l'idéal humain, on dit, bon, c'est bon, allez, ça ne sera pas moi, puis voilà, hein. Je ne suis pas un saint de toute façon, hein. On n'est pas de bois et tout. Bon, mais non. non, mais c'est vrai. Alors, mais Dieu est saint. Et il nous a déjà sanctifiés par le sang de son Fils. Donc, oui, il a dit qu'il m'appelle saint. Donc, ça s'applique à moi comme il convient à des saints. Amen. Donc, lumière, celui qui ne cache pas. Ensuite, le troisième point, c'est, on va lire 2 Corinthiens 7, verset 1. Donc, c'est la crainte de Dieu, qui est aussi crainte de Christ, ce qui est écrit ailleurs. Voilà, c'est la même. Je ne sais pas si j'ai déjà fait ici à Marguerite un message sur la crainte de Dieu, mais tôt ou tard, je l'ai fait. Ah bon, ok, bon c'est trop vieux, allez, et bien que l'un de vous le refasse, vous prenez, si besoin, j'enverrai même les notes. Mais c'est ça le corps. Les choses, je ne suis pas propriétaire. La crainte de Dieu, c'est le rapport, en fait, c'est la conscience. La crainte de Dieu, c'est imprégner en moi, des fois depuis ma tendre enfance, une profonde conscience de l'incroyable disproportion qu'il y a entre lui et moi, entre le Créateur et la créature. Oui, c'est vrai, je vous ai fait... C'est imprégné en moi, si vous voulez, Dieu imprègne en moi la conscience ou le sentiment de l'immense disproportion qu'il y a entre lui et moi, en termes de grandeur. Il est grand et je suis petit, il est saint et moi je suis né dans le péché, etc. Vous comprenez, hein? Voilà, ça c'est la crainte de Dieu. Et donc, elle existe avant que le péché n'arrive. Vous voyez, de toute éternité, avant la rébellion de Satan et avant la chute, les anges avaient la crainte de Dieu. Et ils l'ont encore. Et donc, quand le péché arrive, cette bonne crainte de Dieu devient une peur. C'est le premier mot d'Adam, hein, j'ai eu peur. Mais quand le sang de Jésus arrive et que le péché est ôté, la peur peut s'enlever. Il reste quoi? La crainte de Dieu. Si vous voulez, la peur est un dévoiement de la crainte de Dieu. Donc, le troisième point pour nous sanctifier nous-mêmes, c'est la crainte de Dieu. Et donc, on va lire 2 Corinthiens 7, verset 1. Puisque nous avons de telles promesses, donc référence à ce que Dieu a dit, a fait, c'est impressionnant. Donc le motif, il est là, hein, c'est toujours lui. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Donc là on devient vraiment concret. Purifions-nous de toute souillure. Et plus loin se rajouteront des verbes comme rejeter, abstenez-vous, etc. Donc là c'est moi qui me sanctifie. C'est-à-dire que étant saint, je décide que dans tel domaine je vais me comporter en saint et j'écarte telle ou telle chose. D'accord ? Parce que je me sanctifie aussi en me remplissant de vérité, et d'abord, mais il y a aussi en écartant quelque chose de mauvais. Voilà. Et donc c'est là, si vous voulez, populairement dans le monde chrétien, c'est cet aspect de la sanctification qui est le plus connu. Alors c'est bien qu'il soit connu, mais c'est dommage qu'il soit vu comme le centre, alors qu'il n'est qu'un résultat. Mais il faut qu'il soit connu parce que ça demande une volonté, une vigilance. Qu'est-ce que ça peut être concrètement? Purifions-nous de toute souillure de la chair. On verra de l'esprit après. Tu as évoqué Galates 5, les œuvres de la chair. En gros, les œuvres de la chair, c'est la majorité, il y a un peu de souillure sexuelle, de péché sexuel, un peu de péché occulte, magie et compagnie, et tout le reste, méchanceté, hostilité, rivalité, calomnie, jalousie, convoitise, enfin c'est tout le plus grand nombre, c'est voilà, les œuvres, les souillures de la chair. Vous voyez, les souillures de la chair, c'est pas seulement l'adultère, hein. Alors c'en est. Il est écrit dans Hébreux que le lit conjugal soit préservé sans souillure. Mais c'est c'est tout ce qui est charnel, c'est-à-dire qui n'est pas... Qu'est-ce que c'est le fruit de l'esprit? Amour, joie, paix, douceur, patience, etc. Ben, tout ce qui est rivalité, hostilité, méchanceté, injustice, tout ce qui est désespérance, mensonge, au lieu de la paix, tout ce qui est c'est rivalité, qu'on ait un conflit où on s'explique, ça c'est normal, c'est la vie, hein, mais vous comprenez, bon, etc. Voilà, purifions-nous de toute souillure de la chair. Alors comment on se purifie? Le sang de Jésus me purifie. Oui, il me purifie des péchés que j'ai commis. Si j'étais calomnié, je me repens, Jésus me purifie. Mais si j'ai tout le temps, si tous les trois jours j'ai envie de te calomnier, j'ai un boulot à faire. Hein. Vous comprenez? Voilà, comme je ne peux pas me repentir à l'avance. Donc, il y a un travail de... Voilà, il faut que j'identifie qu'est-ce qui fait que je suis sensible, parce que vous le savez bien, il y a des péchés, il y a des tentations à pécher qui pour toi te feront même pas rigoler. Tu ne seras jamais tenté de ça. Et l'autre à côté de toi, il sera tenté d'un truc, de ça. Et toi, tu vas dire, toi, ça te tente. Et puis l'autre va te répondre, ben oui, mais... Moi, il y a ça qui ne me tente jamais. Et toi, tu en as... Ah, moi, oui. Voilà. Donc, c'est à chacun d'identifier, de voir où est-ce que je suis vulnérable, pas au sens de prêt à rendre des comptes, mais au sens de où je peux être harponnable, où je suis pigeon. Vous comprenez? On est des brebis du Seigneur, mais pas des pigeons. Donc, où est-ce que je peux me faire pigeonner? Et là, il y a un travail de ménage. Oui. Oui, non, ça c'est mon âme. Oui, Pasteur, c'est la volonté. Alors l'esprit, il est pur. Parce que le Saint-Esprit, il habite, etc. Il habite l'âme aussi, mais il n'a pas toute la place encore. Hein. Est-ce que toute ma volonté est soumise à l'esprit? Il n'habite pas toute mon âme. Pas tous les recoins, je veux dire. Mais bon, il nous habite. Voilà. Mais oui, c'est dans l'âme, c'est volonté, c'est des fois c'est juste persévérance, on se tient, on lâche pas. Je me rappelle, il est par là, Pierre, oui, ton père qui avait raconté que je ne sais quelqu'un de l'armée du salut, il avait amené quelqu'un à Christ, et ce quelqu'un, il buvait tout le temps, il allait, après le boulot, il allait boire. Et donc, que ce frère-là, dont ton père parlait, eh bien, il se levait tous les matins aux aurores, parce que le nouveau chrétien, il travaillait en usine, il commençait très tôt. Non, pardon. Donc j'ai mélangé le matin et le soir. Enfin, vous aurez compris, il l'a accompagné pendant un moment, pendant des jours et des jours, il l'a accompagné pour l'aider à... Vous voyez? Alors on n'est pas en train de dire qu'on va rendre les gens dépendants, mais ce que je veux dire, c'est que quelquefois, ça coûte beaucoup. Peut-être qu'à l'autre, ça coûte tout simplement de demander à quelqu'un. Viens, sois avec moi. Est-ce que tu peux pendant au moins une semaine être à 18h avec moi tous les jours? Parce qu'à 18h tous les jours, je me fais pigeonner par un truc. Alors ça peut être n'importe quoi, hein, pornographie, alcool ou simplement cancanage et mensonge. Enfin, je prends un exemple. Vous me suivez? Voilà. Et là, quand on est face à ces tentations... Là, il ne s'agit pas de s'allonger sur son canapé et de dire « Le sang de Jésus m'a sanctifié, je suis sanctifié. » Il y a un moment où il faut... vous comprenez? Parce que la tentation, elle arrive dans les pensées, elle rentre, elle tout ça. Alors, oui, il faut confesser que je suis sanctifié, mais pas passivement. À ce moment-là, cette confession « Je suis sanctifié », alors comme il convient à un saint, à 18h, je vais, voilà, un coup de volant à gauche, bing, j'ai frappé le micro. C'est la fameuse expression de Paul à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Mais un moment, fuir, c'est se tourner et aller ailleurs. Et il y a des péchés où on tombe uniquement parce qu'on n'est pas parti. Les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs. Il y a des péchés dans lesquels on tombe parce qu'on n'a pas voulu s'éloigner de tel ami et on sait qu'il a un effet. S'il n'a pas d'effet sur moi pour m'entraîner vers le mal et que c'est que lui qui est souillé, ce n'est pas obligé que je m'éloigne de lui. Je peux être un bon témoignage pour lui. Mais s'il a un effet sur moi, c'est un bon témoignage que je m'éloigne. Et si on est assez amis, je peux même lui expliquer. En aucun cas je te méprise ou te juge, mais je m'éloigne parce que mon Seigneur, il me demande de ne pas tomber là-dedans. C'est un super témoignage de dire ça à un non-chrétien. Ça le sauvera peut-être. Enfin, ça l'amènera à croire à Jésus qui le sauvera. Ça a du sens? Oui. Micro, micro, micro! Micro, micro! Oula!
Attends, c'est peut-être ça, non?
Ouais, vas-y, vas-y.
Est-ce que par la sanctification, on régénère?
Waouh! Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ça t'est venu comme ça?
Générer pour que l'effet de l'esprit, que l'esprit soit efficace en fait, je ne sais pas bien comment dire. Voilà, donc je voulais savoir si par la sanctification, ça oui. aidait donc à régénérer. Et est-ce que ça va avec ce qui s'appelle le renouvellement de l'intelligence aussi?
Oui.
Ah, j'ai bon.
Super. Alors, voilà ce qui est écrit. Attends. Où il est. C'est plus que possible.
Juste un aparté, tu m'as dit tout à l'heure que l'intellect, s'il était au service de l'esprit, c'était.
Absolument. Oui, j'ai dit tout à l'heure que la Bible n'oppose jamais la pensée au cœur. Ça, c'est une opposition typiquement occidentale, grecque, si vous voulez. Et que c'est pour ça que Dieu renouvelle l'intelligence, qui fait partie de l'âme. Et donc, il nous donne des pensées meilleures. Voilà. Donc, oui, la réponse est oui. Et voilà ce qui est écrit dans 1 Pierre 1, verset 22. Donc, on peut rajouter aux notes. Et moi aussi. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité. En vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Oui, l'auto-sanctification, pour être clair, hein, c'est-à-dire celle que moi, à laquelle moi je travaille, oui, elle change notre âme, elle la purifie. Alors voilà, c'est peut-être ce que tu voulais dire.
Oui, quand c'est trop, après c'est...
Ouais. Alors c'est pas question que c'est trop, c'est en fait, si tu permets, l'objection... Plutôt que il ne faut pas trop, l'objection juste c'est ce n'est pas premier. C'est-à-dire en premier, c'est la nouvelle naissance qui régénère ma personne, donc mon âme. Je l'ai dit, je me mets à aimer Dieu, je me mets à aimer les gens, etc. Voilà. Mais consécutivement à ça, mon obéissance à Dieu la régénère aussi, la purifie. Et donc mon obéissance inclut des choix. Donc de ce point de vue-là, si vous voulez, ça serait complètement stupide d'opposer liberté à sanctification, de dire « ouais, mais je suis libre, je peux tout faire, bon, si je vais me saouler un peu, c'est pas grave, si je regarde un film un peu trop pas clair, ben, de toute façon, c'est pas la fin du monde ». Bon, c'est stupide parce que ici, c'est une fausse liberté d'abord, c'est pas ça que la Bible appelle liberté. Parce que la liberté dans la Bible, c'est justement ne pas être asservi au mal, mais être à Dieu, appartenir à Dieu. C'est là qu'on est libre. Sinon, partout ailleurs, on est esclave de quelque chose ou de quelqu'un. Donc la liberté, donc déjà, ce n'est pas une liberté, ça. Mais ce qui est grave, c'est d'opposer... Je veux dire, quelqu'un qui fait des efforts pour sanctifier un aspect de sa vie, Il ne faut pas venir tout lui saboter en disant mais je trouve que tu n'as pas assez de liberté. Tu es trop coincé, tu es trop scrupuleux, tu es trop ci, tu es trop mime. C'est un assassinat de dire ça à un frère ou une sœur. Vous comprenez ? Il est là, Dieu lui l'enseigne à faire un effort pour sanctifier quelque chose. Et on a, vous savez, on peut. Tu sais, ça existe aussi, la vie chrétienne libre et tout. Bon, voilà, on n'est pas. Il ne faut pas assassiner son frère ou sa sœur. Voilà, donc, crainte de Dieu. Et ensuite, donc on va lire dans 1 Thessaloniciens 4, donc le quatrième petit point. Quelle heure il est ? 4 heures ? Ouh ! Mais on arrive au bout, hein, promis. Il n'y en a plus qu'un après ça. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7. Et donc le mot que moi j'ai mis, volontairement un petit peu, volontairement, pas provocateur, mais stimulant, c'est rejet, le rejet. Il faut pratiquer le rejet. Alors, pas le sentiment d'être rejeté par les autres, il y a une blessure de l'âme, hein, pas ça. Accessoirement, on devrait mieux appeler ça sentiment d'être rejeté que rejet. Normalement, rejet, ça désigne l'auteur, ce que l'autre a fait, mais passons. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 jusqu'à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors qu'il l'a déjà opéré une fois pour toutes, et il est en train de l'opérer jusqu'à la fin de ma vie. Mais quand même, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous allez dire, mais c'est pour la même chose. Non, non, c'est que vous vous absteniez de l'inconduite. Ce qui est un mot gentil pour porneia, c'est-à-dire l'impureté sexuelle. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez, il ne dit pas forcément qu'ils sont tordus, méchants et tout, ils le sont quelquefois, hein. Mais le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas le saint. Donc forcément, ne pas vous livrer. Que personne en affaire n'use envers son frère de fraude. Bon, et n'allez pas vous imaginer que ça veut dire qu'envers les non-chrétiens, on peut, hein. Parce que la Bible en parle aussi ailleurs. Que personne, mais il parle à une église. Que personne envers son frère en affaire n'use de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Ça veut dire il jugera et il demandera des comptes. Nous vous l'avons déjà attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et de même dans, par exemple, Colossiens 3, le fameux chapitre qui commence par « Vous êtes ressuscité avec Christ, regardez aux choses d'en haut, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Et du coup, il dit, verset 5, « Faites donc mourir votre nature terrestre, vos membres qui sont sur la terre, littéralement, inconduite, impureté, passion, mauvais désir, et cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles, etc. » Donc, et ailleurs, il est écrit littéralement, je ne sais plus, maintenant j'ai un petit trou, « Vous aussi rejetez tout cela. » Ah oui, ben Éphésiens 4, je crois. Colère, Éphésiens 4, oui. Animosité, méchanceté, je crois. Hein. Non, là, ce n'est pas avec Éphésiens 4. Bon, pardon. Et désolé, je vous ai peut-être un petit peu. Il y a des morceaux partout. Voilà. Ainsi rejeté. Oh, allez, rejeté. 1 Pierre 2. On a lu 1 Pierre 1 pour dire purifier votre âme dans l'obéissance, la vérité. Et donc 1 Pierre 2. C'est-à-dire là, ben, il prolonge, le Saint-Esprit fait écrire la suite et prolonge l'enseignement. 1 Pierre 2, voilà. Oui, 1 Pierre 2, verset 1, et après on lira le verset 11. qui nous ramèneront à la question de, je ne sais plus, Françoise. Donc, 1 Pierre 1, verset 2, 1 Pierre 2, verset 1.
Il est temps
que je m'arrête. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté, non trafiqué de la parole. Donc, c'est ce que Jésus dit. Par la vérité. Mais rejeter toute méchanceté. Et l'idée ici, ce n'est pas rejeter les méchants, c'est rejeter la méchanceté que vous pourriez, vous, ressentir et pratiquer finalement. Bon, mais ça, c'est, là, je veux dire, il n'y a pas grand mystère, il n'y a pas grand commentaire à faire là, sinon dire que rejeter la méchanceté, c'est parce que quand je la sens arriver, eh bien, il y a non, je veux dire, je ne me laisse pas aller, je la condamne et je la rejette et je la jette dehors. Et on a le pouvoir de le faire, complètement. Alors ça se fait avec Dieu, ça se fait avec le bon lait, avec la parole de Dieu, en l'écoutant, en lui parlant, dire bon Seigneur, lui là, je sens que je suis en train de commencer à le détester. Ça commence par là, la méchanceté, hein, lui ou elle. Bon. Et le pire, jalousie, de ça. Et des fois, c'est un frère, c'est une sœur, des fois. Je veux dire, des fois, je suis pas loin de... Je commence à détester un frère ou une sœur. Alors, rejeter. Ouais. Là, c'est pas chasser le diable. Hein. Accessoirement, c'est écrit nulle part qu'on chasse le diable. Il est sur la terre, on ne peut pas le chasser. Mais par contre, je peux chasser les pensées qu'il m'envoie, ça oui. Mais il faut que je rejette ça. Et donc, c'est moi, c'est un peu... Mets-le dehors. Mets-le dehors. Oui, le représentant pervers, menteur, manipulateur et pédophile qui frappe à la porte, c'est le péché, hein, ce n'est pas une personne, hein, vous aurez compris. Et donc le papa qui veut apprendre au petit, pas trop petit, hein, pré-ado déjà, à dire non. Et l'autre, il est là, il écoute, il est à la porte, il tient, il n'ouvre pas, hein. Il n'ouvre pas trop, il ne laisse pas rentrer, mais il écoute quand même, il est là, tout ça. Et puis le papa est derrière, il se dit, mais qu'est-ce qu'il écoute, il répond, il va se faire embobiner. Il ne faut pas discuter, là, il va se faire embobiner. Alors, un moment, du fond de l'appartement, qu'est-ce qu'il fait le papa? Il hurle, « Fous-le dehors !» Voilà. Voilà. Rejeter, c'est rejeter. Pardon, je pouvais très bien dire mets-le dehors. Mets-le dehors. C'est ça, vous voyez, c'est pour ça que Paul dit fuis, rejette, abstenez-vous. On va lire le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs sur la terre, c'est-à-dire ce n'est pas ici votre vrai lieu, votre citoyenneté, voilà. Ce n'est pas votre vrai lieu, vous êtes déjà citoyen d'en haut. Eh bien, en tant qu'étranger et voyageur, je vous exhorte à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Donc, on rejoint ce que tu avais relevé. S'abstenir. Alors, c'est ça, être disciple de Jésus. Je veux dire, un chrétien qui jamais ne s'oblige à rejeter, à trier, à filtrer, à s'abstenir, à, etc., il n'est pas disciple. Hein. Il est chrétien, il est croyant, il est racheté, tout, très bien. Il n'est pas disciple, il n'est pas en train de suivre. Parce que la suivance, comme on dit, j'aime bien ce mot, le fait de suivre Jésus, un disciple c'est un apprenti. Un apprenti qui s'assied au fond de l'atelier de menuiserie et qui écoute aucune consigne et n'en applique aucune, est-ce que c'est un apprenti? Non, c'est un stagiaire. quelqu'un a dit, je dis pour l'enregistrement, quelqu'un a dit, non, c'est un stagiaire. Voilà. Le disciple, il aime la voix de son berger, de son maître, et il reçoit des consignes. Il dit, voilà, tu prends la planche comme ça, tu la mets sur champ, voilà, tu ne la portes pas à plat, c'est plus difficile, mets-la debout sur champ, comme ça, et puis tu la prends dessous comme un cartable, et on la porte comme ça. Donc il écoute une consigne, tourne la planche, et il le fait. C'est ça un apprenti. Et pour le rabot, et tout ce qu'on veut. Voilà. Eh bien, certaines des consignes que notre sauveur et maître nous donne, c'est rejeter, abstenez-vous, fuyez, écartez, etc. Bien sûr qu'avant ça, il nous dit aimez, priez, croyez, témoignez, enfin vous comprenez, hein, mais ce n'est pas du tout contradictoire. Parce que, alors pourquoi ce n'est pas contradictoire? Parce que à force de ne pas rejeter le mal, est-ce que je crois pareil? Ils font la guerre à l'âme. L'âme chrétienne, l'âme qui a déjà été régénérée globalement, eh bien, elle n'a plus le même zèle, plus la même... vous comprenez? Tu te coupes un peu, tu te coupes un bras, une jambe. Et, oh, moi, ça, c'est pas grave, moi, je ne veux pas faire des efforts pour rejeter le, je sais pas quoi, les convoitises dans les boîtes de nuit. Bon, ça, c'est pas un souci. Moi, mon effort, c'est évangéliser. Mais ouais, mais tu fais ça pendant un bon moment. Et après, qu'est-ce que tu leur dis quand tu les évangélises? Ouais, alors, si tu les amènes en boîte et que tu leur dis vraiment l'évangile, Christ crucifié, le péché condamné, il jugera et son sang t'acquiert le pardon et il demande leur repentir. Si tu dis vraiment l'évangile, bon, ok, tu peux, vas-y. Si tu passes ton temps en boîte, à autre chose qu'à convoiter. Vous connaissez le petit bonhomme, non, c'est un loup de Tex Avery, avec les yeux là. Hein? Voilà. Pardon? Ah. Voilà. Vous comprenez? Donc, non seulement ce n'est pas contradictoire, mais ça fait partie. Hein? Si je désobéis à Dieu ici, ça me sabotera quelque chose là. Si je désobéis là-bas, ça me sabotera quelque chose ici. Donc on ne peut pas opposer le... Voilà. Donc voilà, j'ai fini. Non, je n'ai pas fini. Je le cite, vous le lirez à la maison, vous vous régalerez, vous l'apprendrez par cœur. Je vous en supplie, apprenez-le par cœur. Oui, c'est hyper court. 1 Pierre 1, verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint. 1 Pierre 1, 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, écoutez bien. Vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. C'est génial. Et c'est court. Moi, je sais par cœur depuis 40 ans. Voilà. Donc, le dernier petit mot, c'est progrès. Devenez. Alors, oui, Dieu dit à des saints de devenir saints dans leur conduite. Hein? Oui, ben donc à mes corps. Donc à mes corps. Oui. Voilà, on finit là-dessus. 1 Pierre 1, 15.
J'ai une question.
Oui, ben c'est la présidence du moment qui va dire si on a du temps pour des questions.
Alors, c'est une question, je pense, qu'il doit avoir dans les 2000 ans, à peu près. Comment est-ce que je peux véritablement discerner entre une vraie auto-sanctification et un blanchiment de la surface, on va dire.
Oh, joli. Bravo. C'est alors, bien dit. Non, mais c'est...
En moi, pas chez l'autre. Hein.
Oui. Chez l'autre, c'est facile. Hein. Il me semble que globalement, quand on se ment à soi-même, on ne l'ignore jamais vraiment, ou pas longtemps, voilà, plutôt. On ne peut pas l'ignorer longtemps. Si je me mens à moi-même, je ne peux pas l'ignorer longtemps. Et donc, si c'est un blanchiment de surface, je me mens à moi-même. C'est-à-dire, je sais bien que mon souci est plus l'apparence que la réalité. Mon souci est plus d'être un peu dans les clous. En gros, donc je dirais le premier critère, c'est que je dois avoir quelque part dans ma conscience un clignotant qui m'indique que je suis en train de me mentir à moi-même. Après, plus concrètement, on pourrait dire que les blanchiments c'est le motif, cette pseudo-sanctification qui n'est qu'un blanchiment de surface, qu'est-ce qui l'a motivé, qu'est-ce qui m'a amené à la faire? Si c'est plaire aux autres, voyez, si c'est plaire aux autres, si c'est pour pas, non mais c'est pour plaire à Dieu, amen. Mais si c'est pour plaire à Dieu, ça sera pas un truc de surface, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ou alors, peut-être ce que tu veux dire par blanchiment de surface, tu voulais dire que ce n'est qu'un commencement. Dans ce cas, je me mens pas à moi-même. Mais si c'est que je me mens à moi-même, c'est-à-dire je veux être vu comme un bon chrétien. Paraître, si tu veux, même sans que ce soit de la vanité. Mais, donc, c'est par rapport aux autres. C'est-à-dire, si ce qui me motive, c'est le regard des autres, voilà, là, ça peut être un indicateur.
Ben,
ça l'idée ou...
Par blanchiment de surface, oui. Je voulais dire que des fois, on peut peut-être se séduire nous-mêmes. Pierre dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché se séduit.
Oui.
Donc, si
oui.
On peut se séduire en croyant qu'on ne pêche pas, on peut peut-être se séduire en croyant qu'on s'auto-sanctifie réellement.
Alors, je ne sais pas. Globalement, pas tant que ça, je ne crois pas. Je ne crois pas tant que ça parce que, bon, comme j'ai dit, on ne se ment pas longtemps sans s'en rendre compte. Ensuite, il y a un élément qui peut aider, c'est que évidemment que cette auto-sanctification, elle est progressive. Je veux dire, dans tel domaine, j'ai peut-être juste commencé. J'ai peut-être juste commencé à m'abstenir. Vous comprenez? Donc évidemment qu'elle n'est que partielle, mais c'est autre chose que de dire seulement de surface. Après, non, parce que quand on le fait vraiment pour Dieu, on le fait avec lui, parce que c'est son Esprit Saint qui nous habite. Donc il y a un bonheur, c'est des victoires, tout ça. Donc je pense... Bon, moi, ça fait, je ne sais pas combien de temps, mais beaucoup de temps, bientôt 50 ans que je suis converti, donc 48. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien que j'ai cru m'être sanctifié et que ce n'était pas vrai. Hein. Ce qui me dit beaucoup, c'est que je ne me suis pas sanctifié, que c'était évident. Ça, oui, j'ai vu.
Est-ce qu'on peut imaginer, voilà, dans ce que tu dis des étapes, que par exemple, quelqu'un qui aurait l'habitude avant d'être insultant, injurieux ou d'utiliser des gros mots, s'arrête de le dire parce qu'il sait que c'est pas bien, et puis et il pense que c'est ok puisqu'il a fait ce que Dieu demande, et puis dans un deuxième temps, ce qui arrive souvent dans nos vies, Dieu regarde un tout petit peu derrière ça, puis dit bon, quelle estime tu as des gens par exemple, ou comment tu les considères, ou et que Dieu creuse pour que la sanctification soit plus profonde, il me semble que ça. Et donc, on peut être au début dans l'illusion que c'est réglé. Et d'ailleurs, ça fait partie de nos découragements de dire, mais je croyais que j'avais réglé ça, et puis Dieu me remet ça au sujet. Mais c'est juste parce qu'il approfondit la question pour guérir peut-être même jusqu'à la racine, plutôt que juste les effets. Oui. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a hypocrisie au départ, peut-être un peu d'illusion, mais pas de mauvaise volonté.
Merci beaucoup, c'est très très bien. C'est ça le côté progressif. Je commence par un aspect de la chose. Et puis Dieu m'après montre qu'il y a aussi d'autres. Ouais. Merci beaucoup, c'est très très bien dit. Ouais.
Au début, que tu parlerais du péché de l'esprit. Je ne me trompe pas en disant ça.
Il y a des souillures. On a des souillures de la chair et de l'esprit. De Corinthiens 7, oui. Alors, souillures de l'esprit.
Qu'est-ce qu'on peut voir
comme alors, c'est très. Alors, je dois avouer que c'est difficile. C'est beaucoup moins évident que les souillures de la chair. Voilà. Alors, peut-être les trucs un peu occultes. Plus largement, puisqu'on se sanctifie par la vérité, ça pourrait être tout ce qui n'est pas vérité et où c'est grave. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, pour justifier ceci ou cela, ou mon fils qui a fait ça, je change un peu ce que dit la Bible et que je l'enseigne, je crois que c'est une souillure de l'esprit. Ça commence bien sûr dans mon âme, mais je crois. Probablement, c'est une souillure de l'esprit, parce que, comme dit Paul, ils maintiennent la vérité captive. C'est un péché spirituel. Voyez ? Pas charnel, pas... voilà. Donc, pour des chrétiens, les histoires occultes, ben, c'est quand même, j'espère que c'est extrêmement rare. Je parle une fois qu'ils sont chrétiens depuis un moment, hein. Mais peut-être des choses comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bon de savoir. Moi, ça ne me gêne pas de ne pas comprendre ce que je lis dans la Bible. Mais ça me fait du bien qu'il soit écrit, toute souillure de la chair et de l'esprit. Mais je sais qu'un jour, la deuxième partie de la phrase me sauvera la vie. Vous voyez ? Là, ce que je suggère quelques explications possibles, mais je ne sais pas vraiment. Ouais, merci. J'avais dit, donc.
Merci, Jean. On peut l'applaudir. Merci.